Comment trouver des clients? Comment bien gérer sa facturation? Ces réponses et bien plus sont dans le podcast des indépendants sur BFM Business. Et j'oubliais, quelle banque choisir quand on devient freelance, auto-entrepreneur ou indépendant? Une vraie banque digitale avec des conseillers experts basés en France. Une banque avec des tarifs compétitifs qui propose toutes les solutions pour développer votre activité. Une banque avec 90% de clients satisfaits. C'est Hello Bank Pro. Hello Bank Pro, partenaire du podcast des indépendants. À tout de suite.
On passe au bullshito, vous connaissez le principe, tous les jours on accueille un invité qui vient déconstruire une idée reçue, qui vient pousser un coup de gueule. Aujourd'hui c'est Vincent Auriac, le président d'Axilia qui est avec nous. Bonjour Vincent.
Bonjour Stéphane.
Bonjour. Bonjour.
Alors, la question, le point qu'on va aborder aujourd'hui, l'ESG, qui rapporte un peu moins que les indices boursiers, il faut le reconnaître, depuis le début de l'année, Vincent n'est déjà pas d'accord. L'ESG est responsable du départ des clients de chez BlackRock. Ça, c'est ce qu'on entend. Et vous, Vincent, vous n'êtes pas d'accord. Vous dites c'est du bullshit. D'abord, les faits. BlackRock a perdu la gestion de 8,5 milliards de dollars au Texas.
Exact. Qui s'ajoute à d'autres milliards qui avaient été perdus l'année dernière. C'est un fonds de dotation texan. Donc tout ça se passe très souvent au Texas, mais il y a du pétrole là-bas, donc ils sont un peu à cran. Ce fonds de dotation a dit, il n'y a pas assez de pétrole dans mon portefeuille, dans mon mandat. On est au Texas, c'est pas normal, c'est un scandale, donc je m'en vais.
Voilà. Oui, alors quel est le poids du coup de l'énergie fossile dans un portefeuille?
Ça a beaucoup baissé. Il y a 40 ans, ça pesait 30% des indices. Donc je parle du S&P 500, hein, c'est une histoire américaine. Ouais. Et aujourd'hui, on est tombé à 4%. Alors c'est vrai qu'il n'y a plus beaucoup de pétrole dans les indices, donc ces gens-là qui sont au cœur d'une économie qui est axée autour du pétrole, c'est un peu gênant pour eux, parce qu'il n'y a quasiment plus de traces de ce qui est leur quotidien. Entre-temps, c'est la tech qui a décollé. Le PER d'une valeur pétrolière, c'est 10, ça vaut plus grand-chose. Le PER d'une valeur de tech, c'est 40. Donc, tout de suite, ça fait beaucoup d'argent sur la tech et beaucoup moins sur le pétrole. Donc, voilà, ouais. Ils sont un peu gênés.
Ouais, mais sauf que les épargnants aiment le pétrole parce qu'on en a besoin, même en pleine transition, on en a encore besoin du pétrole.
Alors, effectivement, les épargnants aiment le pétrole, mais c'est un peu, je dirais, peut-être les traces du consommateur qui sommeille en lui. Si on regarde les chiffres, si on est vraiment factuel, 10 000 dollars placés il y a 10 ans, donc 2014-2024, ça fait 40% de gains. Le S&P 500 a fait 200%. Et le S&P 500 moins le pétrole, ça fait 210%. Donc si on est boursier épargnant, la perf, vous faisait choisir effectivement des portefeuilles diversifiés avec peu de pétrole.
Et l'ESG, c'est le coupable un peu idéal hein, de cette sous-performance alors?
Oui, c'est le coupable, mais aux États-Unis, c'est un coupable qui est c'est pas le bon, parce que les ETF là-bas, les ETF pèsent beaucoup d'argent, c'est plus de la moitié des encours, sont gérés de manière très indicielle et leur perf est très bonne. L'ESG, les ETF ESG n'ont pas du tout les problèmes qu'on a en France où c'est de la gestion active. Donc là, les performances sont moins bonnes. Là-bas, les biais par rapport au secteur, par rapport au style de gestion n'existent quasiment pas. Et les performances des ETF ESG sont bonnes. C'est pas ça qui explique le problème.
Je sais que vous n'êtes pas d'accord avec ça, Vincent, mais on a quand même l'impression, notamment depuis le début de l'année, que c'est très difficile d'égaler la performance des indices si on n'a pas dans son portefeuille des valeurs de la défense, fossiles, pas forcément les pires, mais des énergies fossiles quand même.
Oui, mais ça, c'est en France. Aux États-Unis, il y a 4% de pétrole dans l'indice, il y a 4% d'ESG dans les fonds, dans les ETF ESG. 4%, il y a le même poids. Et à l'intérieur, ils vont chercher le fameux best in class, la meilleure valeur pétrolière. Alors nous, en France, on est plutôt à les exclure, les valeurs pétrolières, comme dans le label ISR. Mais là-bas, c'est pas le sujet. Là-bas, c'est il y a 4% de pétrole, je mets 4% et je choisis, sur la base d'une notation ESG, les meilleurs pétroliers à mettre à l'intérieur. Donc c'est un autre sujet.
Alors c'est Big Three, plutôt. Ils en profitent pour pousser un peu leur pion sur leur politique ESG.
Ouais, vous dites que le problème est ailleurs, en fait.
Ouais, je pense que on commence à atteindre un moment où les trois gros gérants là, ce qui sont BlackRock, Vanguard, State Street, commencent à peser beaucoup d'argent. Ils pèsent 25% de la bourse. On nous dit que dans 10 ans, ils pèseront 40% parce que les flux n'arrêtent pas d'aller sur les ETF. Ça commence à gêner plein de gens, des gérants actifs qui étaient là depuis longtemps, et même dans les banques, par exemple, ils pèsent plus de 10%. Donc ils commencent à avoir un agenda où ils essayent de pousser des administrateurs et d'aller au-delà. Je dirais un peu de la maxime américaine, c'est-à-dire t'es gérant passif, eh ben, t'es passif en tant qu'actionnaire. Tu fais rien de particulier. Voilà. Et comme ils essayent effectivement de faire autre chose, de maximiser, de pousser des agendas ESG qui sont là aujourd'hui, qui n'étaient pas là il y a 40 ans, ben, ça gêne, quoi. Voilà. Ces gens-là ont pris beaucoup de place.
Mais quelle est la solution?
Alors, les trois gros, là.
Parce qu'on sait qu'ils poussent les entreprises à avancer.
Ouais, alors si c'est ça qui est gênant, ils ont déjà.
C'est plutôt pas mal, ça.
Ouais, mais bien sûr. Ils ont le droit d'agir, de voter. Donc, on peut pas. Ou alors, il faut interdire le vote. Donc, en tout cas, les trois gros gérants, là, State Street, BlackRock et Vanguard, ont trouvé la solution. Ils vous redonnent les droits de vote. C'est-à-dire que le particulier peut choisir ce qu'on appelle le direct voice. Et donc, on lui redonne les droits de vote, plutôt que ce soit exercé par le département de vote de BlackRock. Il vous redonne les droits de vote, et c'est vous qui votez. Il y a déjà 20% des clients qui utilisent ça. Donc, je ne comprends pas pourquoi le fonds de pension, là, Texan, n'a pas utilisé ce truc-là. Il aurait utilisé ses droits de vote comme il veut. Mmh. Mais bon, je pense qu'il n'y avait vraiment pas assez de pétrole pour lui, quoi. 4%, ça ne lui va pas.
Et question... là, on enterre BlackRock.
Oui. BlackRock, vous savez, je crois que dans les échos, il y a deux jours, il était question d'ailleurs que BlackRock revienne. BlackRock n'est pas mort. Les performances sont excellentes. Le cours de bourse. Il a rien dit. Tout est bon. L'accord de Paris, c'est pas BlackRock qui l'a voté. C'est 196 États, donc c'est pas leur sujet. Et donc voilà, ils sont partis pour rester. Donc le climat, bah, ça va continuer. L'ESG, ça va continuer en s'adaptant. Et BlackRock va rester. Ils sont droit dans leurs bottes et c'est parti comme ça.
Le point de vue de Vincent Auriac, président d'Axilia. Non, l'ESG n'est pas responsable du départ des clients de chez BlackRock.